France Musique. France Musique. Tendez l'oreille. Christophe Dillis.
Bonjour Christophe.
Bonjour Gabriel, bonjour à tous.
Un sujet compliqué aujourd'hui, la musique atonale.
Et oui, en fait Gabriel, je m'aperçois dans mon parcours que plus ça va et plus ce qui m'intéresse sont les transitions dans la vie, dans l'art. Comment on passe le temps, comment on va d'un point A à un point B. En musique, chaque période de l'histoire apporte son lot de règles et de solutions pour conduire le temps. À l'époque médiévale, c'est la modalité qui modelait la mélodie et ses intervalles pour mieux chanter une prière. Plus tard, c'est plutôt un jeu de tension et de résolution qui allait conduire notre oreille au gré des sonates et des symphonies. Et puis, disons, allez, au XXe siècle, on a tout mis dans un sac avec l'étiquette atonale dessus, et puis c'est tout.
Et puis donc, aujourd'hui, Christophe, pour vous, vous trouvez ça un peu trop simple.
Absolument. Voici le début officiel pour le grand public de la musique atonale en Autriche au début du XXe siècle. On a essayé de résumer pour le grand public cette idée que tout à coup, le système tonal, le système de tension et de résolution qui a fait toute la carrière de Haydn et de Mozart, aurait explosé au début du XXe siècle, que les Viennois de la seconde école auraient officialisé la rupture avec le Ré majeur, avec une déflagration aussi forte que celle qui a porté la balle de Gavrilo Princip vers la jugulaire de l'archiduc François Ferdinand.
Alors Christophe, vous avez une révélation à nous faire ce matin.
Vous connaissez mon goût pour le spectaculaire, mais oui, pour le coup, j'espère bien créer un avant et un après cette chronique en vous parlant de la musique atonale de Schubert, Chopin ou encore Brahms.
C'est étonnant, effectivement. Les compositeurs romantiques auraient donc composé de l'atonale ?
Oui, si on décide de lire certains passages, comme de la musique atonale. Certains passages musicaux arrivent à tenir debout sans être dirigés vers une résolution, vers une tonalité.
Et on peut en parler aujourd'hui grâce à une théorie récente, Christophe.
Qui porte le nom de théorie néo-riemannienne, du nom de Hugo Riemann, musicologue allemand de la fin du 19e siècle. Dans les années 80, on ressort ses écrits sur les accords parfaits de trois notes, les triades, et on dégage un principe extrêmement simple. Au lieu de toujours aller vers Do majeur ou Sol mineur, par exemple, on peut quand même construire un discours. Mais en enchaînant les accords sur le principe de notes communes d'un accord à l'autre. On garde deux notes, on change une note et ça donne un nouvel accord. Pensez l'accord. Comme un triangle, vous avez un triangle qui a sur ses extrémités Do, Mi, Sol. Voilà, pensez vraiment à un triangle. Maintenant, on va garder Do et Mi, mais on va transformer le Sol en La. Maintenant, on va garder Mi et La, par exemple, et on peut transformer le Do en Do dièse. Et comme ça, on peut passer d'un accord à l'autre en transformant une note à chaque fois. Ce que vous allez entendre là, c'est de la musique atonale, dans le sens où elle ne va pas vers une tonalité. Et ainsi, ça vous donne des accords qui s'enchaînent bien, mais qui ne cherchent pas à être résolus vers une tonalité. Et une fois qu'on commence à relire avec les théories néo-riemanniennes tout le 19e siècle, ce siècle considéré comme tout ce qu'il y a de plus tonal à part à la fin avec Wagner et Liszt, c'est assez vertigineux. On s'aperçoit que tout le répertoire est truffé de petites inclusions atonales. Prenez Brahms, son double concerto pour violon et violoncelle. Tous les accords s'enchaînent en transformant une seule note à la fois. Et dans la vitesse, ça donne ceci, de la musique de Brahms atonale. Tendez l'oreille.
Christophe, il n'y a donc aucun doute sur les théories néo-riemanniennes ?
C'est là où le mot théorie prend tout son sens. Ce sont des théories. Je ne dis pas que je cautionne ou pas, je dis simplement que ça existe et que ça semble bien pratique pour relire ces mesures qui ne sont pas tonales mais qui ne sont pas dissonantes non plus, qui sont juste en apesanteur sans être magnétiquement attirées par une tonalité. Et ces moments d'apesanteur pourraient être lus à travers le prisme des théories néo-riemanniennes. Et oui, c'est récent, années 80, puis revisité en 2000-2005. Je réclame du temps pour vraiment travailler dessus et avoir du recul. Mais en tout cas, je ne serais pas étonné que ce soit aujourd'hui une première à la radio qu'on parle.
Vous avez dit
ça.
Qu'il y aura un avant et un après.
Oui, voilà. Je vous laisse donc avec Chopin qui passe d'un accord à l'autre en transformant une ou deux notes. À chaque fois, on ne sait plus en quelle tonalité on est.
Chopin, donc, à l'instant. Merci beaucoup, Christophe Dilis, pour cette chronique Tendez l'oreille. Je peux quand même avouer qu'hier après-midi, je vous ai appelé, vous m'avez dit que vous n'aviez pas votre sujet. Et là, ce matin, on apprend plein de choses. Vous avez eu le temps, donc, de lire cette nuit les théories de Hugo Riemann. Vous me fascinez quand même.
J'ai lu plein de thèses cette nuit, donc je n'ai rien inventé pour les plus grincheux des auditeurs. Tout est sourcé, tout est sur le site. Je n'ai rien inventé.
Et je vous fais absolument confiance. C'est justement pour ça que vous me fascinez. Très bonne semaine.
Vous me fascinez aussi. Bonne semaine à vous.
À réécouter sur francemusique.fr.